On y va pour les deux plats du jour.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
The menu, please.
Oh, tu goûtes ça.
Allô?
Monsieur Tintin?
Oui, c'est moi qui est à l'appareil?
Mon nom ne vous dirait rien, mais il faut que je vous voie d'urgence.
Mesdames, messieurs, dans quelques instants, Angoulême. Angoulême, terminus de ce train.
Tu viens, Obélix?
Mais Astérix, j'ai à peine entamé les hors-d'œuvre.
Parmi les meilleures tables, distinguées partout dans le pays, figure un nouveau venu dans la région. Le restaurant du domaine des étangs à Massignac, en Charente, décroche sa première étoile.
À la tête du restaurant, Fabien Beaufour.
On reste sur une cuisine qui est simple. On utilise au maximum les fournisseurs locaux, que ce soit la truite de la Touvre, bœuf du Limousin, agneau du Limousin.
Entre écluses et vignes, sur la commune de Roulet-Saint-Estèphe, Alain Joussaume, fromager et éleveur de chèvres, a repris l'exploitation familiale il y a près de 20 ans. Ces fromages de chèvres sont devenus, en un quart de siècle, des acteurs incontournables de la gastronomie angoumoisine.
Qu'est-ce que tu as, Milou ?
Faim !
Vous avez assez d'indices pour savoir où on va déguster Plante ses crocs aujourd'hui ? Dans la capitale française, européenne, que dis-je, mondiale de la bande dessinée. Bienvenue à... Waouh, tous en cœur. Bravo, cher public. Merci beaucoup pour votre accueil. Nous sommes donc à Angoulême, dans l'espace Franquin à Angoulême. Merci pour votre accueil au menu de cette émission spéciale. D'abord, Festival oblige. Des albums de bande dessinée, évidemment, et de préférence qui croquent la gastronomie. On va même voir que c'est une tendance de fond. Et ça, on va le voir avec ma complice, amie, chroniqueuse, Elvira Masson. Bonjour Elvira.
Bonjour à tous.
Gastronomie et bande dessinée.
Ah oui, ça fait bon ménage. Entre une balade dans le vignoble français et des souvenirs culinaires du fin fond de la Chine, on part en voyage.
On part en voyage. On va voir ça avec vous. Au menu également du pur terroir charentais qu'on va partager avec trois invités. Je vous les présente. Mon premier est cuisinier, chef du domaine des étangs, un hôtel-restaurant à Massignac. On est à une trentaine de kilomètres au nord-est d'Angoulême. C'est Sébastien Beaufour, bonjour.
Bonjour.
Potager bio, cuisine de saison, produits artisanaux et locaux. Vous allez nous montrer, Fabien Beaufour, comment vous cuisinez la Charente. Allez, une petite assiette que vous venez de dresser, on veut l'intituler en un mot.
On va faire très simple sur le produit, la truite et l'artichaut.
Car un de nos invités à vos côtés est pisciculteur. On lui doit de la truite fraîche, mais aussi fumée, depuis peu de temps. Bien élevée dans les eaux vives et pures de la Touvre, c'est Yann Bellet. Bonjour.
Bonjour.
Vous nous avez apporté votre produit qu'on va déguster avec vous dans un instant. Et puis notre dernier invité, il produit du fromage de chèvre en plein pays de Cognac, ce qui est plutôt original. Du fromage fermier au lait cru de très haute qualité qui a du succès à Angoulême, mais également à Paris, voire même à Tokyo, hein, si je comprends bien. Et si je vous dis dans le public, la topinière ou la topinette, on connaît ou pas? Ah, quand même, ça vous réveille les papilles dans le public. Alain Joussomme, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes producteur de fromage de chèvre, pardon, à Roulet-Saint-Estèphe, c'est bien ça?
Exactement, de fromage de chèvre fermier, j'insiste sur.
Bien sûr, je l'ai précisé, vous avez raison de le dire, et on n'est pas très loin d'Angoulême.
Oui, il y a une quinzaine de kilomètres au sud, là.
Voilà.
Entre Angoulême et Parbezieux.
Oui. Oh là là, le
plateau est prêt.
Le plateau et sur notre plateau. Voilà, le plateau de chèvre, là il y en a partout, des affinages différents, on va goûter ça.
J'ai une narine droite qui frétille.
Avec nous également, une des voix dont on va déguster qui vient régulièrement. Planter son coup de lame dans l'émission. C'est Arnaud Daguin, bonjour.
Bonjour.
Ancien cuisinier étoilé qui nourrit le corps mais aussi l'esprit, qui nous invite à réfléchir sur notre alimentation au quotidien mais également la gastronomie. Ravi que vous fassiez partie du voyage. La teneur de votre coup de lame, Arnaud ?
Oh, je vais me faire plein de nouveaux amis, je pense, parmi les gens qui s'occupent de faire des millions et des millions de litres de palais.
Du lait un peu laid, du lait pas très beau, on va voir ça. Restez connectés à l'émission sur franceinter.fr, à la page on va déguster, sur Twitter avec le mot clé on va déguster, il y a aussi notre mail on va déguster @radiofrance.com. Du fromage de chèvre, de la truite fumée, du cognac, du pinot, des bulles, on aime Angoulême
sur France Inter, avec François-Régis Bédon, on va déguster.
Eh bien, il y a de l'ambiance au Festival de la Bande Dessinée d'Angoulême. 44e édition. 1500 auteurs quand même, 200 000 visiteurs attendus, toutes générations confondues. On a même aperçu des classes avec des enfants en très bas âge. 17 pays représentés, c'est quand même un événement de taille qui se déroule jusqu'à ce soir. Il y a un auteur qui s'est échappé du festival, qui vient de rejoindre l'espace Franquin, peut-être par l'odeur alléchée, parce que c'est un grand auteur de bande dessinée, mais il a aussi un truc particulier avec la gastronomie, c'est Mathieu Burnia. Bonjour.
Bonjour.
On vous connaissait dans l'émission pour avoir signé il y a quelques années La Passion de Dodin Bouffant. Vous étiez d'ailleurs venu nous en parler sur le plateau dont on va déguster. Vous êtes aussi connu par tous les bédéphiles, évidemment, avec un titre que vous avez sorti l'an dernier qui est, on peut le dire, un phénomène de librairie. Je vous laisse dire le titre.
Oui, tu dois parler du mystère du monde quantique.
Ah, absolument. Incroyable.
Oui, ça marche super bien.
Best-seller.
C'est un best-seller. Ouais,
c'est un best-seller.
Où on l'approche.
Voilà, et Mathieu Burnia, jeune auteur de bande dessinée, est à Angoulême pour présenter son dernier album, Les Illustres de la Table, et c'est aux éditions d'Argot.
Toujours d'Argot, oui.
Est-ce que vous pouvez nous raconter, Mathieu, en un mot, l'esprit, la démarche de votre livre ?
Alors, c'est un livre qui raconte l'histoire de la gastronomie, mais à travers le portrait de grands gastronomes, pas seulement des cuisiniers, mais aussi des penseurs, des écrivains, des cuisiniers aussi, et puis alors des amoureux de la gastronomie, tout simplement.
Alors, il y a un co-auteur, c'est Benoît Sima, qui voilà. Est un journaliste économique, mais qui aime...
Passionné de vin et de bonne bouffe.
Voilà, très porté sur la chose, j'allais dire. Lui signe les portraits ou les textes, voilà. Et vous, il y a comme une espèce de pendant en dessin
voilà,
et en bulle.
Voilà, on met en parallèle un texte de Benoît Sima qui introduit les gastronomes dont on parle, puis après, il y a une page ou trois pages qui prennent un détail de la vie de chacun de ces gastronomes.
Elvira a dévoré votre livre. Qu'est-ce qu'on y trouve, Elvira ?
C'est très varié. On passe de Rabelais à Kurnonski, en passant par Maïté, Ginette Mathieu. Il manque pas grand monde.
Oui, moi j'ai adoré.
Le panorama est complet.
J'ai adoré évidemment ce que vous racontez sur l'invention de la soupe VGE. Paul Bocuse, invité en 1975 à l'Élysée, on lui remet la Légion d'honneur. C'est le président Valéry Giscard d'Estaing qui s'y colle et il invente forcément un plat. C'est
le plat, la soupe VGE.
Voilà. Mais qu'est-ce qu'il dit? Alors, ce qui est hyper drôle, c'est ce qu'il invite à faire lorsqu'il présente son plat au président.
En fait, il faut rappeler que la soupe VGE, c'est une soupe qui est surmontée d'une croûte, comme une croûte de pain.
Oui.
Et c'est simplement l'association entre deux idées qu'il a eues. Il a rencontré des campagnards qui faisaient une soupe avec beaucoup d'ingrédients, dont de la poule, de la truffe, etc. Et un autre ami à lui, il lui a proposé une sorte de pâté en croûte avec quelque chose d'assez liquide au milieu. Et donc, il a associé les deux idées pour Valéry Giscard d'Estaing.
Le président lui dit, qu'est-ce qu'il faut faire avec ce plat, avec ce dôme de pâte feuilletée? Eh bien, monsieur le président, cassez la croûte.
C'est voilà. Ça, voilà.
En toute simplicité.
Si vous aimez les petites histoires et les grandes histoires de la gastronomie, jetez-vous sur cet album. Il est fait pour vous, pour revivre les grandes heures de l'histoire de la gastronomie, les illustres de la table. Alors, vous êtes notre fil rouge, Mathieu Burnia. Je crois même que vous êtes arrivé équipé de vos feuilles et de vos feutres.
Je vais vous croquer.
Qu'est-ce que vous comptez faire? Ah oui, on va déguster dans tous les sens.
Vous allez déguster, oui.
D'accord.
Petite idée.
Eh bien, écoutez, on attend vos dessins avec impatience et puis on se retrouve tout au long de cette émission, évidemment. Nous, ce qu'on a fait en arrivant à Angoulême ce matin, c'est en général une espèce d'automatisme maintenant, de réflexe dans toutes les villes que l'on parcourt pour l'émission, c'est d'aller, Elvira, évidemment, au Hall.
Magnifique, c'est à l'ailleurs. Voir un bâtiment absolument superbe.
Inspiré de Baltard,
Absolument.
Fin 19e siècle. On a regardé ce qu'Angoulême avait dans le ventre. Alors peut-être qu'on fait un petit tour de table pour demander à nos invités où est-ce qu'ils ont leurs habitudes, est-ce qu'ils ont des étals de prédilection au Hall d'Angoulême. On commence avec Alain Joussaume.
Moi, je vais pas acheter du fromage au Hall d'Angoulême, mais je vais plutôt en déposer.
J'imagine.
Un établissement qui s'appelle Sous la Cloche.
Vous connaissez
ce qu'on trouve sous la cloche. Quelques fromages... j'admire le travail et la passion de Patrice et son épouse.
Il nous a fait de l'œil, je dois dire, cet étal.
Oui, il en parle vraiment avec beaucoup, beaucoup de passion. Il vit vraiment ses fromages et puis ce qu'il présente.
On l'a vu à l'œuvre ce matin, effectivement. Ouais.
Fromages artisanaux, il y a évidemment les fromages d'Alain Joussaume, les fromages de chèvre, mais c'est vrai que c'est un étal hautement recommandable. Yann Bellet, vous avez une petite idée de là où vous allez au Hall ? Notre producteur de truites.
Eh bien, moi, quand je vais au Hall, je vais voir Monsieur Bachelier parce qu'il nous propose des produits extraordinaires.
Et là, il y a Arnaud Daguin qui dessine un énorme sourire, qui est d'accord. Oui, on y était ce matin, figurez-vous. On a fait même une petite dégustation et Elvira nous a offert Elle n'est pas si généreuse d'habitude, mais là, j'avoue que dans un grand élan de générosité, on a eu droit à des rillettes de canard.
Je suis tombée amoureuse des rillettes de canard au foie gras de Marie-Laure et Bruno Bachelier.
Vous êtes d'accord ?
Et vous avez raison, c'est vraiment un des produits phares de la maison Bachelier.
Et un superbe produit.
Caillé en tranches fines,
ouais.
Sublime produit.
Viande de canard confite, foie gras, lait, œufs, sel, poivre, pas de gros mots sur l'étiquette. Pas de sel nitrité, Arnaud Daguin, et c'était bon. Hein.
Ah oui, c'était délicieux.
On s'est vraiment régalé. Allez, on s'intéresse au terroir charentais. On se rend compte qu'il est plutôt gâté par la nature. Alors on aurait pu, évidemment, on a regardé un peu nos archives, nos fiches, vous préparer une cagouille à la charentaise, sachant que la cagouille, ce sont des...
escargots.
D'accord, il y en a deux qui suivent, super. Détruite à l'angoumoise, angoumoise, hein, comme Angoulême, évidemment, ou une fricassée de jo au cognac. Le jo, c'est... Ah, le jo, c'est le coq. Moi, j'ai appris ça. Vous saviez ? J-A-U-D. Le jo au cognac. Mais on va mettre en valeur une ressource locale qu'aime beaucoup notre chef Fabien Beaufour, qui est aussi une volaille. C'est ?
Bah, c'est la poularde de Barbézieux. Ou alors, ils la font en chapon, en poule et en poulet.
Absolument. Voilà une vieille race de poule. Ancienne, c'est ça ?
Apparemment, la plus ancienne de France, paraît-il, très exploitée avant-guerre, qui a eu un déclin après-guerre,
oui.
Et qui renaît un peu de ses cendres. On la croyait oubliée et ils ont retrouvé des volailles parfaitement saines. Et depuis, le développement est reparti. Avec, pour particularité, c'est une volaille noire, à pattes noires,
oui.
Avec une chair très fine, des cuisses foncées, une chair plutôt brune sur les cuisses, et une peau encore un peu dense, qui est un peu un gage du fait qu'elle court encore dans les champs. C'est une volaille qui est assez grosse, on va dire,
oui.
elle atteint facilement les 3 kilos pour certaines. Mm-hmm. Nous, personnellement, on la récupère avant ça, on est sur du 1,6 kg, 1,8 kg.
D'accord.
Et qui est aussi bonne pochée que rôti.
Très bien. Et bien justement, on va se mettre en cuisine puisque vous êtes chef du domaine des étangs. C'est bien ça, Massignac, on n'est pas très très loin, nord-est d'Angoulême.
On est nord-est d'Angoulême, on est sur la département 13 qui relie La Rochefoucauld à Rochechouart.
D'accord.
À mi-chemin.
C'est ce qu'on appelle un peu la Charente limousine.
C'est la Charente limousine. Très cher aux habitants qui arrivent encore à différencier la Charente maritime, le Poitou-Charente et la Charente limousine.
Et au cœur de cette Charente limousine, il y a un domaine stupéfiant avec un château d'une valeur historique colossale.
Oui.
Très ancien, c'est ça ?
11e siècle, remanié au 16e et rénové il y a 5 ans.
Ça vous fait quoi de travailler dans un endroit pareil ?
Bah, me sentir privilégié au quotidien d'avoir un outil de travail et le plaisir de le faire partager à tous nos hôtes, qu'ils soient locaux ou qui viennent de l'étranger. C'est une grande chance.
Vous avez le souci des produits bien faits, artisanalement, bio de préférence. Vous avez même, je crois, un potager, agriculture biologique, d'où proviennent une grosse partie de vos légumes.
On essaye, tout en restant ouvert aux agriculteurs locaux, ne pas les remplacer, mais peut-être ajouter quelque chose à ce qu'on n'arrive pas à trouver dans la région. Et oui, on a environ 1000 hectares de terrain qui sert à la fois pour un élevage bovin. Et dans ces 1000 hectares, on a un petit hectare de potager où on cultive essentiellement des plantes aromatiques et des légumes.
Alors, revenons à cette Barbezieux, puisque Fabien Beaufour, vous êtes tombé amoureux de cette poule de luxe. Crête rouge et brillante, oreillons blancs, pattes ardoisées, plumage noir avec des reflets, d'un assez beau gabarit tout de même. Et vous allez proposer une technique de poulet rôti qui va faire un peu d'effet au fourneau de nos auditeurs et de notre public, puisque votre recette comporte une étape tout à fait spécifique.
Bah, c'est après de nombreux tests pour développer une recette de poulet rôti.
Je précise d'ailleurs d'emblée qu'elle est adaptable à, évidemment, toutes les races de volailles.
Absolument, hein. Absolument. Mais on a toujours le même problème avec le poulet, si vous voulez, c'est que c'est un oiseau avec deux muscles bien distincts, la cuisse et le blanc, et ils ne cuisent pas de la même façon. L'assaisonnement est toujours clé, et de là, pour attendrir les chairs et pour être sûr d'avoir un assaisonnement à cœur, la petite étape clé, c'est de faire mariner le poulet en saumure pendant 6 à 12 heures avant, selon la quantité de sel que vous mettrez dans l'eau. Dans cette eau, vous pouvez y ajouter des épices, des oignons, du laurier, du thym, de l'ail, tout ce qui peut vous passer par la tête, et l'idée, c'est de submerger entièrement la volaille de ce liquide salé. Et une fois les 6 heures préconisées passées, vous l'égouttez pendant au moins 3 heures, bien qu'elle sèche. Et après, vous la massez avec un peu d'huile d'olive et une épice, en l'occurrence du paprika ou du cumin, enfin ce qui vous viendra.
Et l'intérêt de cette marinade, c'est effectivement d'obtenir à l'arrivée une chair extrêmement tendre et juteuse.
et salée régulièrement, une peau particulièrement croustillante. On rappelle le principe de la saumure avec des proportions. Il s'agit donc d'une solution d'eau et de sel.
Solution d'eau et de sel, on est en général sur 10% de sel par rapport à l'eau.
Donc 100 grammes pour un litre.
Oui.
Et pour une barbezieux, si on a une volaille d'un kilo 2, 1 kilo 5.
Oui, il faudrait prévoir 4 litres d'eau.
Donc combien de sel? On va voir si on suit. Waouh, ils savent faire leur règle de 3, génial. 400 grammes pour 4 litres.
C'est ça.
C'est ça.
À savoir que les 400 grammes de sel vont pas finir dans le poulet, bien entendu. C'est le phénomène d'osmose qui va s'appliquer où le sel manquant dans la volaille va être pris.
Et une saumure peut servir plusieurs fois, on est bien d'accord.
Une saumure peut servir plusieurs fois.
Ah, notre Arnaud anti-gaspi, vous avez raison, évidemment. Donc, on immerge, on a compris, la volaille entière. Réfrigérateur, donc il faut avoir de la place quand même.
Un petit peu.
Ou un petit peu dehors, s'il n'y a pas trop de gel.
En ce moment, c'est dehors, c'est parfait, je pense.
C'est parfait, c'est cela. Donc, immerger une nuit.
Une nuit, 12 heures. Dans 12 heures, vous allez réduire la quantité de sel. On va vous pouvoir mettre deux fois moins, vu qu'il y aura plus de temps pour que le sel pénètre dans les chairs. Donc on partira sur 5%. Et si vous êtes un peu pressé, vous allez sur 10% et 6 heures.
Quand on installe sa volaille ensuite dans son plat de cuisson, on ne ressale pas évidemment.
On ressale pas.
Un peu d'épices. Qu'est-ce que vous faites d'autre?
Je huile.
Oui.
Comme un massage, oui. Avec des épices, paprika et piment de Cayenne. Ça va déjà apporter un petit peu d'épicé, ce qui va relever la volaille. Et dedans, dans la volaille, un demi-citron. Coupé.
Ah, donc une petite surprise dans le coffre.
L'acidité est très importante en cuisine. Ça relève les graisses, le goût, et le citron vient apporter un peu de fraîcheur.
Éventuellement, voilà, des petites herbes, du thym, du romarin,
absolument.
Pourquoi pas, on est d'accord. Et puis de l'estragon, si on veut la jouer un peu poulet à l'estragon avec ses notes anisées, non?
On peut.
Et la cuisson, enfin, c'est ce qui est quand même important. Four à quelle température?
180 pour
oui.
Commencer. On la commence sur son dos,
d'accord.
Pendant 20 minutes. On la tourne sur une cuisse 15 minutes. On la tourne sur l'autre cuisse 15 minutes. Et le plus important de tout, on la laisse reposer en sortant du four au moins 20 minutes, voire une demi-heure, pour que la chaleur continue de pénétrer les chairs. Parce que sinon, le blanc sera trop cuit et la cuisse sera pas cuite.
Et là, on obtient un petit monument.
De poulet rôti.
De poulet rôti.
Mais bravo. Ça fait une vraie différence par rapport à un poulet rôti cuit normalement au four. C'est beaucoup plus moelleux et beaucoup plus croustillant à la fois. C'est
absolument.
Ça l'idée.
Oui, l'idée c'est de concentrer le goût par le sel et d'assaisonner à cœur.
Super. Le poulet rôti saumuré façon Fabien Beaufour. Et je peux vous dire que dans le monde entier, on l'a pas dit le garçon, mais il est allé à New York, à Londres et ailleurs. Il a un CV en béton armé. Il a eu du succès partout avec cette recette de poulet rôti à retrouver évidemment. Sur notre site franceinter.fr, à la page On va déguster, Mathieu Burnia, mauvaise nouvelle, à Séville.
Oui, et il a croqué Fabien Beaufour. Alors Fabien Beaufour, qui est au domaine des étangs, qui est peut-être pas en train de se la couler douce, mais en tout cas, il est au soleil, il est en train de jouer au tennis, sur le court de tennis du domaine des étangs, et là, il y a le châtelain de son donjon qui lui intime l'ordre de retourner au fourneau. Fabien, au fourneau!
Mais comment il est au courant?
Il faut arrêter de glandouiller, là.
On retrouvera ses dessins, évidemment, sur notre site internet. Ah ben, il est en forme aujourd'hui, Mathieu Burnia. On vous retrouve dans un instant.
2000 ans que j'attendais ça, rencontrer une fille comme toi, mon amour. Près des mines de salt, il ne nous fallait qu'une heure et trois jours. 2000 ans que j'attendais ça, qu'on me dise de tels mots d'amour. Tu mets la barre un peu plus haut, tu mets la barre toujours plus haut chaque jour. Tu dis qu'on ne joue pas pour la même équipe. Puis tu dis que je suis à la fois trop plouc et trop chic pour une fille comme toi.
Si me lo decían hace 2000 años no lo creía. Cantando con un francés acabaría. Mucho menos cumbia, rap y boom, boom, boom. Escribir canciones tomando cerveza y Coca-Cola con rum. Me dice que le encanta cantar conmigo. Todo es casi ridículo, de película te digo. Mi romántico cantante francés estaría escuchándote las 24 horas de los 31 días del mes. Me dice que soy la reina de Palermo, Queens. Yo le dije que no soy cantante, que soy actriz. Si me lo decían hace 2000 años no lo creía. Escuchando la Mona Jiménez con Benjamín Violet terminaría. Me encanta ser su reina de Palermo, Queens. Y pareciera que absolutamente todo es posible en París. Todo es posible en París.
¿Qué me dices?
Déguster le magazine gastronomique de France Inter.
On va déguster Dresse le couvert au 44e festival de la bande dessinée d'Angoulême. Notre dilemme à Angoulême, c'est bande dessinée ou bien déguster. On va voir ce qu'on préfère, peut-être les deux d'ailleurs. Mathieu Burnias s'active sur ses stylos et sa feuille. Il vient de signer Les Illustres de la Table aux éditions d'Argo, un formidable bouquin à conseiller à tout bédéphile, mais également à tout gastronome. Nous sommes en compagnie du chef Fabien Beaufour, le domaine des étangs. Il y a Yann Bellet, dans un instant, on va parler de ses truites fumées ou fraîches d'ailleurs. Alain Joussaume pour le fromage de chèvre qui est pas très loin d'Angoulême. Et une question dans le public. Bonjour, vous vous appelez comment ?
Valérie, alors je suis enseignante justement dans un lycée hôtelier et je suis venue avec mes élèves de BTS pour assister à votre émission.
Voilà la bonne idée, bonjour, salut à tous.
L'occasion était trop belle, on s'est précipité et je voulais justement poser une question au chef parce que cette histoire de massage de poulet c'est quand même assez extravagant. Donc on les emmène en thalasso, enfin vous faites comment vous?
Oui, c'est une bonne question et c'est vrai que c'est revenu.
Voilà, mais comment, je voulais savoir comment on arrive à découvrir des techniques comme ça, c'est l'instinct, c'est l'expérience et on recommence X fois la recette, comment ça se passe?
Alors, si vous voulez, le massage à proprement dit n'a pas une vocation à attendrir la viande. C'est juste parce qu'il y a plein de recoins dans un poulet. Donc, le faire avec un pinceau, c'est très délicat, mais ça va pas faire pénétrer vos épices. Donc, y aller avec la main, bien sûr, vous pouvez mettre un gant et masser pour bien faire pénétrer dans les chairs. Il y a plusieurs façons d'ouvrir son esprit à la cuisine. Les voyages, c'est très bon. Les livres, l'échange aussi avec moi, mes hôtes au quotidien qui me parlent du repas qu'ils ont fait dans un autre restaurant, d'une technique qu'ils ont aimée. Au final, on a vocation à être une éponge et à prendre tout ce qu'on peut prendre. Et des fois, on a des grandes inspirations, même dans le street food. C'est important d'être ouvert d'esprit.
Ben, merci d'appuyer mon point de vue. C'est ce que je leur dis à chaque cours.
Ardo,
je voudrais en profiter, puisque ces jeunes gens sont là, pour leur rappeler que l'instrument, l'outil le plus formidable qu'ils ont avec eux tout le temps...
C'est la main.
C'est la main.
Et ça marche un peu moins bien à la radio.
N'oubliez pas ça, je leur montre à eux. Donc, c'est notre outil principal et c'est parce que c'est un très bon outil que c'est celui qui remplit le mieux l'office donc, dont on vient de parler. C'est-à-dire de passer dans tous les coins sans abîmer en 100 ans ce qu'on fait.
D'ailleurs, voilà. Notre ami Alain Passard qui nous écoute presque tous les dimanches, le chef 3 étoiles de l'Arpège, dit tout le temps à sa brigade quand ils sont, puisque c'est quand même un maître rôtisseur, quand ils touchent la volaille, etc. Ben, caressez-la. Parlez à votre poulet. Il faut même lui parler aussi. Il faut l'écouter chanter dans le four. Malheureusement, on va un peu casser l'ambiance à cause de mon voisin de droite en évoquant la beauté du lait ou plutôt la laideur du lait.
Le coup de lame d'Arnaud Daguin.
Cuisinière, cuisinier, bédévorienne, bédévorasse, profitons de cette parenthèse charentaise pour parler dessin. Dans des seins, en deux mots, je dirais même plus des mamelles, je dirais même plus des pis des vaches. Et ce qui en découle, le lait. Parlons lait. pas celui de vos bananias, pas celui des rayonnages sans fin de vos supérettes, arc-en-ciel, de merdouilles, qui ne diffèrent que par les additifs chimiques qu'on a schtroumpfés dedans. Ce lait-là, ça fait longtemps qu'il n'a pas vu la vache. N'en déplaise aux dessins pastoraux qui ornent ses packs, ce lait-là, il est laid, oh là là, c'est pas du bon lolo. Il a pointé à l'usine, et ça lui a pas fait du bien. Craqué comme pétrole, l'or blanc traité comme l'or noir, démembré, valorisé en sous-produits, reconstitué au rabais, bétonné, chauffé à mort, liquide blanchâtre et stérile, dans lequel on remet parcimonieusement le minimum légal de gras et de protéines. À votre avis, François-Régis, de quoi le lait demi-écrémé industriel est-il de demi ?
Bonne question.
Est-ce qu'il contient la moitié du bon gras du départ ? Et de la bonne flore bactérienne, complice de mes intestins, où es-tu, flore chérie, maîtresse de mon côlon? Où êtes-vous passé, vitamines, protéines, bons oméga, minéraux, toute la bande de nutriments? Elle est foutue, la bande, François-Régis, elle est cuite. C'est la bande décimée.
Waouh, oulala, très drôle. Et pour le goût, Arnaud?
Ah ben pour le goût, Tintin, si je peux dire. Parlons lait donc, mais vrai lait, cru, entier, aliment parfait, contenant tout pour faire pousser les petits et qui peut même soigner les grands. Il a fallu au monde vivant 4 milliards d'années pour le mettre au point. Les laits de vaches, de chèvres, de juments, de brebis, de baleines, d'ornithorynques et le tien, maman, ont tous un point commun. Quand ils sortent des mamelles, ils sont parfaitement adaptés à leur fonction. Nourrir, constituer, protéger un bébé. Ils poussent même le raffinement jusqu'à être différents au long de la journée, énergétiques le matin, relaxants le soir, la classe. Et il nous a fallu à peine 100 ans pour en faire un truc sans valeur et même nuisible, mais lucratif. Quand je vois les ravages du marketing, ça m'énerve. Toutes ces gourdes hyper flashy qui font semblant d'être aux fruits, tous ces brassés prêts à boire qui font mine d'être du yaourt, tous ces bouts de plastoc qui font genre « je suis du fromage ». Alors qu'avec un demi-verre de lait cru entier par jour, nos gamins pèteraient la santé, on va les polluer à coups de trucs chelous.
La vache ne rit plus.
Non, François-Régis, la vache qui rit. Dessiné par Benjamin Rabier, rappelons-le, le pionnier de la BD, enfin un des pionniers de la BD, la vache qui rit a laissé place à la vache qui pleure. La vache qui pleure, excellent ouvrage de Véronique Richer-Lerouge.
On l'avait reçu d'ailleurs. Hein.
Par Acam Lerouge, suivez un peu François-Régis.
C'est ça.
Véronique Richer-Lerouge, la vache qui pleure, aux éditions du Nouveau Monde. Lisez-le, et si vous ne virez pas accro au lait cru, que le grand cric me croque.
Allez Arnaud, un petit tour en cuisine, capitaine.
Allez, aujourd'hui, moussaillons, le haddock au whisky, normal. Dans un plat à gratin, versez donc un fond de bon lait cru bien crémeux. Éparpillez dedans vos poireaux et champignons émincés fin, et donnez un tour de moulin à poivre. Ensuite, vous posez là-dessus le filet de haddock, avec le côté de la peau en dessous. Un peu plus de poireaux, un peu plus de champignons, un autre tour de moulin, et vous arrosez le tout d'une bonne rasade de whisky.
Ah, carrément.
Carrément. 15 minutes de four à 180, c'est juste le temps de finir la bouteille. Et c'est prêt, mis de savoir. Allez, allaitez-vous les uns les autres et vivez joyeux. Flibustier, moule à gaufre, sapajou, boisson soif, ornithorynque, ectoplasme, jocris, coloquinte, cercopithèque.
Stop, vous en avez d'autres en magasin? Non, là ça va, on peut s'arrêter. Bravo! Rire ou sourire devant quand même la triste réalité du lait industriel aujourd'hui. Merci pour votre billet, cher Arnaud. Alors évidemment, votre voisin de droite est concerné par la question. Il est producteur de fromage de chèvre. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient d'être dit, Alain Joussaume?
Eh bien, c'est tristement vrai, quoi. C'est tristement attristant. Mais je voulais revenir sur votre chronique. Je n'ai jamais eu le plaisir, l'avantage de goûter du lait de baleine, ni même d'ornithorynque. Mais en fait, va traire une baleine.
Oui, c'est pas fastoche à ce qui paraît. Alors par contre, en revanche...
On peut traire les chèvres.
Voilà, c'est à peu près traitable. Ce sont des chèvres, vous en avez 400, je crois, pas très loin d'Angoulême.
Oui, à peu près, je ne les ai pas comptées ce matin avant de venir, mais oui, 400 chèvres que l'on traite matin et soir, que nous alimentons avec les produits, c'est-à-dire le foin et les céréales que nous produisons.
C'est cela.
Et nous transformons l'ensemble de notre lait de chèvre en fromage de chèvre fermier.
Alors, vous évoquez le lait, justement... Arnaud Daguin nous racontait la façon dont il était industriellement matraqué. S'il y a bien une chose à laquelle vous faites attention dans votre ferme, puisque vous êtes d'une production fermière, rappelons d'ailleurs que fermier, ça veut dire que c'est l'endroit où on récolte le lait et on le transforme. Hein.
Exactement.
C'est le même endroit.
Voilà.
Et vous dorlotez, je crois que le mot n'est pas faible, vous dorlotez cet or blanc, votre lait de chèvre.
Exactement, il s'agit pour nous de garder l'intégrité vraiment du lait de chèvre. Alors ça passe par une première chose, c'est l'alimentation des chèvres.
Oui.
C'est-à-dire que les gens ils disent oh, le lait cru, oui, mais attention, on peut être ça peut empoisonner le lait cru. Non, c'est pas vrai. Si vous avez un animal qui est sain, il va forcément vous produire un lait sain. Mmh. Tout comme une maman va produire du bon lait pour son enfant. Et ce lait-là, il est déjà chargé en bonnes bactéries. Et il s'agit pour nous de respecter suffisamment le lait pour garder le bon équilibre de ces petites bactéries-là. Parce que c'est celles-ci qui vont nous aider à faire le fromage de chèvre, là, qui est sous mon nez, que je vais vous faire passer.
Vous êtes connu, vous ne faites pas partie d'une appellation. Hein, on n'est pas dans
voilà,
une région...
Alors en Charente, en pays du cognac, en Charente, il n'y a pas de tradition fromagère vraiment ancrée autour d'AOP, même si on fait du fromage...
Au nord du département
en Charente depuis très 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 longtemps,
oui. Hein,
parce que un peu plus au sud, on a le beurre de beigne. Voilà, il y a la laiterie de Clay qui est à 3 km de chez moi, quand même. Hein, mm-hmm. Et par contre, en termes de chèvres, la Charente était en dehors de ça, parce que c'était un pays riche, on va dire, et les chèvres, on les retrouvait plus dans le nord Charente, les Deux-Sèvres, la Vendée. Et en Charente, la chèvre, c'était considéré comme la vache du pauvre. Et mon père a eu cette idée un peu folle de fabriquer son lait de chèvre, de le transformer
en plein pays
et de
du
le
cognac.
Vendre et de faire en plein pays du cognac. Voilà, bon, il a fait un peu de diversification 30 ans avant ses copains, quoi. Mais à l'époque, il est passé un peu pour un fou. Donc on a commencé avec 25 chèvres que mon père s'occupait. Ma grand-mère faisait un petit fromage frais qu'on a reproduit ici.
Comment
là,
il s'appelle
voilà. Là, ça s'appelle la mousse de chèvre.
La mousse
Ma grand-mère faisait un petit fromage
Allez-y,
frais,
Arnaud.
Donc qu'elle faisait de façon complètement empirique, comme faisait sa grand-mère à elle.
Oui.
Et mon grand-père, lui, vendait ce petit fromage au porte-à-porte dans les rues de Châteauneuf. Là. C'est une petite ville à côté. Voilà, avec son petit Solex. Il y a encore des anciens qui me parlent de Papy Joussaume avec son panier.
C'est ça. Parlez-nous voilà. des spécialités qui font la notoriété de votre
Alors,
maison.
Donc, pas de zone d'AOC, on a créé nos spécialités. Donc, dans un premier temps, la taupinière.
Ouais.
C'est un fromage qui date des années 70, hein. Je dois le nom de la taupinière à un fromager que vous avez connu, qui s'appelait Monsieur Rebex. C'est lui qui a trouvé le nom de la taupinière. Alors, c'est une marque déposée, je tiens à le dire,
oui.
comme la taupinette.
D'accord.
Et on a eu la chance, dès le début, de faire du bon fromage. Et très tôt, d'être connu, reconnu, entre autres chez les fromagers parisiens, chez certains grands chefs.
Quand j'ai ouvert mon restaurant à Biarritz en 88... La taupinière était présente chez le meilleur fromager de Biarritz, chez Million de Fromage, et qui vendait très bien ce fromage-là, en l'affinant comme il faut. Voilà.
C'est ça. Racontez-nous la forme de la taupinette et de la taupinière.
Oui, c'est vrai que c'est pas très radiophonique. La taupinière, c'est un fromage hémisphérique. Voilà. En gros, vous avez une demi-boule. Voilà, c'est un dôme.
Simple.
Taupinière, c'est le dôme que font les taupes dans le jardin.
C'est ça.
Voilà. Et donc la taupinette, c'est en quelque sorte la petite sœur de la taupinière, qui est deux fois plus petite, donc un petit dôme voilà, qui tient dans la main, comme dirait le fameux sketch de Coluche. Mm-hmm. Et là,
vous
on
vous
est
proposez
sur
un... à différents stades d'affinage ici.
Oui, ouais. Alors après, je vous ai amené ici différents stades d'affinage. Vous avez, parce qu'on n'a pas que la taupinière et la taupinette chez nous, on a une gamme d'une dizaine de produits. Là, vous avez donc la taupinière en moelleux ici. Alors ça c'est
un produit magnifique. Ça,
avec une petite gelée de coin au petit déjeuner, ça.
Là,
déchire.
C'est mousseux en bouche,
voilà.
Ultra lacté, très caressant
avec
tout le palais.
Avec du pinot rouge, c'est pour aussi l'apéritif.
Ah oui, ouais. Je pensais que vous alliez dire au petit déjeuner, j'avais peur.
Ouais.
Un autre affinage un peu plus poussé pour la taupinière.
Oui. Alors on a la taupinière et la taupinette ici qui ont un mois d'affinage. Là, on commence à être sur un fromage blanc cassant. On en parlait.
Moi, j'adore ça.
Voilà. Mmh. Et ça, avec, par exemple, comme on est dans les boissons locales, là, le vieux Pinot des Charentes, à l'apéritif. Alors,
vous
ça,
avez une bouteille?
Ah, elle
est bien raisonnable.
Là, voilà.
Et je crois que même que c'est une bouteille produite par papa.
Mon apo. Oui.
Oui, c'est ça. Mais ça fait bon ménage, chèvre Pinot des Charentes, on peut essayer?
Ah, exactement. Oui.
Allons-y.
Ça fait tout à fait bon ménage.
Que pense notre chef Fabien Beaufour de ces fromages?
Ils sont délicieux. Il y a vraiment une douceur inattendue sur du chèvre. Et
tout de suite à vient à l'esprit sur le fromage frais, notamment avec une salade de betterave, peut-être juste une petite crème fouettée en plus pour l'alléger et en faire une sauce directement. Ça serait juste génial.
Alors là, vous évoquez effectivement cette mousse de chèvre, hein, c'est ça ?
Oui.
Ressemble un peu à une. C'est plus liquide qu'une faisselle.
C'est entre le caillé et le fromage blanc.
Voilà, c'est ça. Ouais, très bien, avec des betteraves, ouais.
Et on est sur presque une consistance d'une crème fraîche. Mmh. Il manque juste l'acidité, mais ça pourrait presque remplacer une crème fraîche.
Exactement. Moi, je fais des petites choses avec ça. Je renforce le goût de la mousse de chèvre avec de la moutarde. J'assaisonne et on fait des petites dips comme ça, à l'apéritif, avec des légumes frais juste blanchis. C'est
splendide.
C'est juste bien.
Les fromages de chèvre au lait cru et fermier d'Alain Joussomme en Charente, c'est absolument extraordinaire. Moi, je pensais à une chose. Yann Bellet, on va parler de votre truite dans un instant. Quelques blinis, un peu de cette mousse de chèvre, votre truite fumée.
Absolument.
Et un moi, petit coup de citron, non
que, oui, c'est quelque chose que je vais essayer parce que c'est vraiment un fromage qui a été très agréable et qui devrait se marier parfaitement avec la truite fumée.
Ils sont validés, vos fromages, depuis belle lurette, évidemment. Et encore une...
Je pense que vous ne nous avez pas tout dit.
Non, j'ai pas dit.
Oula, j'ai peur. Ah oui,
Mathieu Burnia vous a croqué, Alain Joussomme. On vous voit au micro d'Inter. Vous parlez pour faire un bon lait de chèvre et on voit une chèvre sous la table et votre main gauche qui lui tend une petite bouteille de Pinot des Charentes.
Là, il faut voir le dessin quand même. Le Pinot des Charentes, c'est le
magnifique.
C'est le biberon de la chèvre sous la table. Très très bonne idée. Ben voilà, on connaît
ceci
enfin
explique
le secret.
Cela.
On connaît enfin le secret des fromages d'Alain Joussomme. Bravo Mathieu Burnia. On revient à vous dans un instant. Petite pause musicale.
L'appétit vient en écoutant. On va
Déguster sur France Inter.
C'était Con Brio avec le titre Monnaie pour accompagner notre escale gourmande à Angoulême. Merci pour votre accueil, cher public. On est très heureux d'être ici, d'avoir dressé le couvert en très bonne compagnie. On évoque évidemment la bande dessinée, mais également les saveurs charentaises. C'est un bon produit qui nous fait de l'œil dans une assiette creuse. C'est absolument superbe. Fabien Beaufour à Séville avec un produit que l'on peut qualifier de local, pour le coup. Il est signé Yann Bellet et votre métier, c'est...
Eh bien, moi, je suis éleveur de truites sur la Touvre.
Pisciculteur, c'est comme ça qu'on dit ?
Pisciculteur. On dit pisciculteur, éleveur.
Sur la Touvre.
Sur la Touvre, la fameuse rivière la Touvre.
Alors, racontez-nous un peu près, précisez-nous, on n'est pas entendu évidemment qu'à Angoulême, mais dans toute la France. Géographiquement, la Touvre ?
La Touvre, c'est une rivière qui est très connue des pêcheurs pour la qualité de ses eaux, pour la qualité de ses truites. Et c'est une rivière qui se prête merveilleusement bien à l'élevage de la truite.
En quoi la Touvre est un milieu naturel qui a de vraies particularités ?
La Touvre est d'abord une rivière très courte,
oui. Elle
fait que 8 km de long, elle se jette dans la Charente.
On n'est pas très loin d'ici.
Oui, on est juste à côté. C'est une rivière issue de sols calcaires, donc qui se prête parfaitement pour la truite, notamment pour les salmonidés. Mm-hmm. Une rivière qui a beaucoup d'herbes, donc ça aussi est un signe de qualité pour cette rivière.
Et il y a une autre caractéristique, vous m'aviez dit en préparant cette émission, c'est sa température ?
On a une température, l'élevage est situé en aval immédiat des sources de la Touvre, donc il y a une température constante toute l'année de 12,5 degrés.
Depuis quand votre élevage ?
Les premiers bassins expérimentaux ont été faits en 1957 et la pisciculture a été construite en 1970.
D'accord. Quel poisson élevez-vous ?
On élève à 90% de la truite arc-en-ciel et on fait un peu de truite fario et de saumon de fontaine.
La truite fario, on est d'accord que c'est la version élevage de la truite sauvage qu'on trouve encore dans les rivières.
C'est ce qu'on appelle la truite sauvage, avec ses points rouges et noirs bien connus des pêcheurs.
Mettons les pieds dans le plat. Votre élevage a-t-il un impact sur l'environnement ?
Il y a toujours un impact, mais compte tenu des qualités physico-chimiques de l'eau, du débit de l'eau, de la végétation dans la rivière, l'impact est très minime parce que nous avons un pouvoir de dilution très important. Et de toutes les façons, on ne peut pas et on ne doit pas élever nos poissons sans se soucier de l'environnement.
On a également des doutes sur les élevages de poissons, surtout quand il s'agit de poissons carnivores, car on sait que pour les nourrir, il faut utiliser une ressource qui vient d'ailleurs,
absolument,
qui a été elle-même prélevée dans un autre milieu. Donc là aussi, il y a évidemment un impact.
Il y a un impact, bien sûr. On donne des farines de poissons de mer à nos truites, mais on s'est aussi substitué, comme on l'a fait depuis plusieurs années. On a travaillé étroitement avec nos marchands d'aliments, nos fabricants d'aliments, et on a substitué des protéines animales pour des protéines végétales.
Et vous me disiez que notamment pour nourrir vos truites qui vont donner la truite fumée, vous utilisez une alimentation bio.
Oui, j'utilise un aliment bio parce que cet aliment répond à mon cahier des charges pour faire un produit très élaboré, plutôt haut de gamme.
Vos truites, on les trouve en version filet ou d'eau, et ça c'est du frais.
Oui.
Mais également, et ça c'est assez nouveau, dans votre entreprise familiale, en version fumée.
Voilà.
Ça date de quand ?
La truite fumée, c'est assez récent. En fait, c'est parti d'une idée où je considérais que sur la région d'Angoulême, on n'arrivait pas à trouver de truite fumée digne de ce nom.
Oui.
Donc, m'est venue l'idée un jour qu'il fallait en mettre sur le marché. Mais pour ça, compte tenu des qualités de la Touvre et de notre proximité des sources de la Touvre, j'ai décidé de tout faire sur place. Et donc, on élève ces truites qui ont à peu près 3 ans.
Oui.
On les nourrit d'une certaine façon, comme vous l'avez signalé, et on propose un produit où on fait tout nous-mêmes. On lève les filets nous-mêmes, on sale nous-mêmes, on fume nous-mêmes. Tout est conditionné, étiqueté, tout est fait à la maison.
On a le droit de goûter ou pas ?
Avec plaisir.
Est-ce qu'elle est considérée comme... qu'en est-il au niveau de la texture, de la couleur, du gras ? Racontez-nous votre produit qui circule.
Ben alors, là, on est sur un produit qui n'est pas gras du tout, parce qu'on prend le temps de l'élever, on ne le pousse pas. On essaye de reproduire en élevage les conditions naturelles de la truite.
Fabien Beaufour, cette truite fumée ? Oh là là.
On est d'accord.
Et puis une longueur en bouche.
Moi, je travaille surtout avec la fraîche aujourd'hui.
Oui.
Et ce qui m'a marqué dans le produit, mis à part le fait qu'elle soit ultra fraîche, parce que on commande et le lendemain on a un produit, c'est le fait que les truites sont jeûnées pendant 2 jours avant l'abattage et la saignée aussi, qui est une technique particulière.
Vous nous en donnez la raison. Vos truites jeûnent avant d'être.
Oui, tout à fait. Il faut plusieurs jours de jeûne avant
d'être saignée.
D'abattre une truite. D'abord parce qu'il faut que le sang se nettoie du bol alimentaire. Il faut aussi que les chairs soient donc les chairs aient été irriguées par ce sang sans le bol alimentaire pour ne pas donner un goût trop prononcé à la chair. Il faut qu'on retrouve vraiment le goût du poisson.
Vous avez goûté, Arnaud, cette truite fumée ?
Absolument magnifique, et la fumaison est
oui, légère.
Délicate,
c'est un voile qui vient juste assaisonner, c'est magnifique.
Ah oui, on n'a pas la tête dans la fumée.
Et le sel est parfait aussi, le poids de sel parfait.
Voilà, on travaille sur des fumaisons, sur une fumaison très légère, c'est une fumaison à froid, et également avec un salage extrêmement particulier. Vous parlez tout à l'heure de travailler avec les mains, et tout est fait à la main volontairement, le salage est fait à la main. Pour avoir ce produit.
Voilà,
vous avez précisé l'essence de bois qui vous sert à fumer ?
Oui, on met de la cire de hêtre.
Oui, de la cire de hêtre.
Voilà.
Absolument. Alors, venons-en à cette recette signée Fabien Beaufour. Vous utilisez, comme vous l'avez dit, des filets frais, là. On est dans une espèce de carpaccio de sashimi, on pourrait dire ?
Oui, alors, carpaccio, sashimi, selon l'origine du produit. L'essentiel, c'était de respecter le produit, et pour ça, des tranches fines. Et deux saveurs majeures, la noisette avec l'artichaut, qui vient complimenter le côté un peu gras, noisté d'une truite, et le lait de coco.
Eh ben oui, c'est ça qui est sidérant.
Parce que lait de coco, artichaut, noisette, c'est un très bon mélange. Et pour trancher tout ça, un tout petit peu de yuzu, qu'on peut remplacer par un citron vert si vous ne le trouvez pas.
Le yuzu étant ce fameux agrume japonais qui ressemble un peu à la mandarine.
Oui, et là on a une acidité qui est très franche pour justement casser le gras de la sauce, parce que le poisson est très peu gras, mais tout ça se mélange bien ensemble.
Oh là là, c'est incroyable. Vous avez imaginé cette recette dans quelles circonstances ?
Eh bah, ben, c'était pour le séjour de Monsieur Guérard qui nous rendait visite au domaine des étangs.
Michel de son prénom ?
Michel de
Eugénie
son prénom.
Lébin, on le salue ?
Oui, très dynamique et très actif dans la cuisine, qui nous a rendu visite. Et après quelques jours, j'étais en retour de pêche. Et j'avais pris ma première.
Est-ce que vous pêchez ?
Je pêche à la mouche.
D'accord. Dans la Touvre ?
Dans la Touvre.
Ah.
Et j'avais pris ma première truite et.
Pas dans les bassins de rassurez-nous.
Ça va, il vous dérange pas trop, non ?
Non, c'est du sauvage.
C'est un peu trop facile.
D'accord.
Non, mais et j'ai ramené ma première truite et il fallait faire un amuse-bouche le soir. Il était là et du coup, j'ai fait cet amuse-bouche qu'il a adoré. Et du coup, on en a fait un plat.
Oh là là, c'est sidérant. Hein.
Et c'est pas étonnant que ça ait plu à Michel Guérard.
Sashimi de truite, purée froide, absolument. Purée froide, parce qu'en plus c'est sain. Et purée froide d'artichaut, une note de citron vert, du lait de coco qui vient comme ça apporter de la rondeur et une touche d'exotisme. Bravo, hein. La recette évidemment à retrouver sur franceinter.fr. À la page, on va déguster.
Mettez le couvert, on va déguster sur France Inter.
Elvira, oui. Votre régime est papivore aujourd'hui ?
Papivore,
pas très calorique.
Néanmoins, j'ai une forme de millefeuille, mais un millefeuille tout à fait digeste sous les yeux.
Pas mal.
J'ai sillonné un peu les allées du festival. Je suis allée voir les uns les autres et j'ai rapporté une petite récolte. Je commence avec un ouvrage dont je vous ai déjà dit un mot, dont on a déjà dit un mot dans l'émission, d'accord. Il est en librairie depuis quelques mois, déjà depuis le mois de septembre dernier. Mais c'est un tel coup de cœur, c'est un coup de cœur tellement absolu que ça nous paraissait légitime d'en remettre une petite couche. Je vous parle de Pur Jus, Cultivons l'avenir dans les vignes, de Justine Saint-Lô et Fleur Godard, édité chez Marabout. Alors Fleur et Justine nous emmènent en balade dans le vignoble français, à la rencontre d'une trentaine de vignerons qui travaillent en bio. Et je ne sais pas comment elles s'y prennent, ces deux jeunes femmes, pour nous abreuver de détails techniques. On parle de taille en guyot de la vigne, on parle de verre de grappe, sans jamais barber le lecteur néophyte. Parce que moi, en matière de taille de vigne, je me considère comme parfaitement néophyte. Et pourtant, ça m'a passionnée. Tout en séduisant, à ma connaissance, également les connaisseurs. Notre Antoine Gerben a beau connaître tout ça par cœur, il a trouvé ça également très, très, très séduisant.
Notre chroniqueur vin, absolument.
Et pourquoi ça fonctionne, ce livre ? Bah, tout simplement parce qu'elles ont sillonné le vignoble pendant plus d'un an, qu'elles ont une empathie et une admiration sincère pour le travail de ces vignerons.
que la personnalité des vignerons transparaît très bien. Rarement voit-on à ce point ce qui anime les hommes et les femmes qui font le vin. J'ai une faiblesse particulière pour le portrait d'Alice Bouveau. Oui. Regardez François-Régis, j'ai mis un post-it rose pour que vous puissiez le retrouver. Vigneronne à Arbois dans le Jura, aussi parce que j'aime son vin. Elle s'occupe toute seule de la vigne, du chai, de la paperasse. Elle s'occupe seule des enfants et de la maison. C'est un concentré de courage, de bonne humeur, de talent et d'optimisme. Et dernière chose, peut-être la plus importante, les portraits des vignerons croqués sont à la fois écrits avec une plume très sensible et croqués à l'aquarelle par Justine Saint-Lô d'une manière très élégante. Vraiment, achetez-le, c'est un bijou de finesse, de sensibilité et de connaissances techniques sur le vignoble.
On évoque souvent, vous savez, les vins nature. Le problème, c'est que nature, c'est un petit peu galvaudé, c'est un fourre-tout.
Et on ne sait pas comment travaille le vigneron.
Préférons parler de vins vivants,
voilà.
Des vins dans le respect de la vigne. Et il y a toute une galerie de portraits chez des vignerons qui ont des convictions et qui croient vraiment en leur métier aux quatre coins de France.
Un deuxième petit coup de cœur. Ce n'est pas une bande dessinée. Ce n'est pas non plus tout à fait un roman graphique. C'est un récit illustré par 200 illustrations et calligraphies. Signé Raoul Pingrou, qui est invité d'honneur du festival d'ailleurs. Ce livre vient de paraître. Ça s'appelle Notre Histoire. C'est édité au Seuil et c'est un véritable phénomène d'édition. L'auteur a 94 ans. Il n'avait rien écrit avant de faire ceci. Il était comptable dans une maison d'édition. Il est devenu une célébrité en Chine en publiant cette autobiographie dans laquelle il raconte son amour pour sa femme disparue en 2008, Mei Tang. Et il raconte également plus d'un siècle de tourments en Chine. Et quel tourment ! Ne serait-ce que ceux qu'il a connus, lui, 20 ans passés dans un camp de rééducation, sa femme qui élève seule leurs 5 enfants pendant toutes ces années avant qu'ils ne se retrouvent, et tout au long pourtant, une délicatesse absolue, et dès les premières pages, des souvenirs culinaires qui infusent le récit.
Et ben voilà, on y est,
ah
c'est
oui.
Sûr.
Et Pingrou mange des ongzi, ces fameuses papillotes de riz à l'eau alcaline. Pingrou déguste du yushenzu, un insolite congé de poisson à foison. Il dévore un émincé de viande sautée à l'ail frais, un plat à 2 yuan. Il engloutit des petits pains à la vapeur fourrés, une célèbre spécialité du Nongxiang. Des souvenirs culinaires qui ont forgé chez Pingrou une manière de tenir le coup, parce que c'était pas facile sa vie, et qui lui ont prouvé que la vie pouvait être belle malgré tout, c'est bouleversant.
C'est effectivement un livre qui fait beaucoup parler hein, dans les rues d'Angoulême.
Notre histoire de Rao Pingrou est au Seuil. Au fait, c'est le nouvel an chinois, Bonne année du coq.
Et on s'est régalé. Bonne année, vous adressez à qui ? À moi, le coq ?
À vous.
D'accord, merci. Merci beaucoup. Et puis, notre coup de cœur, évidemment, Mathieu Burnia, Les Illustres de la Table, c'est aux éditions d'Argo. La cuisine très gore de Maïté aussi, il y a des épisodes truculents. La façon dont Auguste Escoffier a rationalisé la répartition du travail dans les brigades de nos grands restaurants, il y a de belles pages qui sont raconter, hein Mathieu ?
Oui, je suis d'accord.
30 en tout ?
Il y a une trentaine de gastronomes.
Ouais. Et combien de temps pour faire ce travail ?
Beaucoup de temps, surtout beaucoup de temps pour faire les recherches.
Et on retrouve Mathieu à 13h,
et oui.
Tout à l'heure, sur le stand d'Argo.
On va tous se ruer à la dédicace de Mathieu Burnia, qui évidemment signera celui-ci, mais également les autres.
Bien sûr.
Ouais. Voilà, et notamment les mystères.
Le mystère du monde quantique et la passion de Dodin Bouffant, bien sûr.
Voilà, la passion de Dodin Bouffant qu'on a évidemment adoré. Vous étiez venu nous en parler. Merci beaucoup, Mathieu. On va mettre en ligne tous vos dessins. Il y en a d'autres qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer, mais on s'est bien marré pendant les pauses musicales. Il était assez prolixe, notre ami Mathieu. Merci à tous d'avoir fait rayonner votre bonne humeur et vos belles saveurs sur le plateau dont on va déguster. Fabien Beaufour, le domaine des étangs à Massignac. Alors, vous êtes fermé en ce moment. Et vous réouvrez ?
On rouvre le 1er mars.
Avec des premiers menus à prix accessible hein, pour un restaurant étoilé ?
Oui, alors ça a toujours été notre volonté. Le premier menu est à 30 euros et on monte jusqu'à un menu signature à 98 euros. Et l'idée, c'est d'être une table charentaise et nationale, et même internationale aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup de clients de l'étranger. Mais avant tout, on veut faire partie du terroir.
Il a un sacré talent, ce chef. Il a quand même raflé son premier macaron Michelin, au bout de 6 mois. Hein.
Ouais.
Ce qui est quand même assez rare. Bravo. Yann Bellet, les truites Bellet, on peut les retrouver où, si on est à Angoulême ou en France ?
Eh bien, on peut les retrouver en grande distribution dans les gens qui font les grandes distributions, qui acceptent les produits locaux.
Oui.
Et puis dans des magasins de producteurs également. Sur place aussi. Sur place à la pisciculture et dans les restaurants.
Alain Joussaume, pas de difficulté pour trouver votre fromage de chèvre, même dans les très belles fromageries de Paris.
Il faut trouver un bon fromager, un grand fromager qui se respecte, un bon fromage à la coupe.
Voilà.
À la ferme, hein, comme c'est ça, c'est encore mieux, on peut caresser les chèvres au passage.
Eh ben, très bien, vous accueillez le public.
Eh ben, évidemment.
Bonne nouvelle.
On se voit toutes les écoles du secteur, là.
Eh ben, très bien, ils apprennent comme ça ce que c'est que du vrai lait cru pour faire plaisir
oui, c'est important.
À Arnaud Daguin. Nous étions très heureux d'installer notre studio au Festival de la Bande Dessinée d'Angoulême, en Charente, 44e édition. Et cette 44e édition se clôture ce soir, dimanche. Ce fut un beau succès, on peut déjà le dire. Merci au festival et à la ville d'Angoulême pour leur accueil. Et merci à vous, cher public. Merci Michel Biou, Nadia Chougui, toutes les équipes techniques de Radio France. Merci beaucoup Elvira. Merci beaucoup Arnaud Daguin. On se retrouve très vite dans nos studios parisiens la semaine prochaine, dimanche 11h, pour une émission sur la cuisine de Venise. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.